va commencer avec des choses évidemment connues pour que ce soit bien clair de quoi on parle. Alors, ça se joue, mais au temps du deuxième Beth Amikdash. Au temps du deuxième Beth Amikdash, ça veut dire, comme vous savez, Shlomo HaMelech avait construit le Beth Amikdash parce que David en avait fait le projet, mais Hachem n'a pas laissé David construire. Il a dit, c'est ton fils qui va construire. Donc David il avait fait tous les préparatifs, il avait préparé les matériaux, et c'est son fils qui va construire. Il construit, ça coûte très cher évidemment, et tout le royaume de Shlomo HaMelech va coûter très très cher. Et à la mort de Shlomo HaMelech, son fils Rehovam, qui reçoit la visite des Chachamim, qui lui disent, écoute, tout est magnifique, mais ton père, il nous a écrasés d'impôts. Il faut que tu réduises les impôts. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu cette intelligence de comprendre qu'il fallait le faire. Il fait le contraire et il annonce qu'il va faire le contraire. Que non seulement il ne va pas les réduire, mais il va les augmenter. Alors du coup, le nazi, il lui enlève, sur l'ordre d'Hachem, il lui enlève le royaume, il lui laisse deux tribus et demie. Son royaume se réduit à la tribu d'Yehuda, la tribu de Binyamin et la moitié de la tribu de Menaché. Et les 9 et demi autres tribus sont attribués à quelqu'un d'autre, un bonhomme qui s'appelle Jéroboam, Jéroboam pour les intimes, et qui au départ devait être évidemment un super tzaddik, mais qui devient un des rois les plus idolâtres qu'on ait jamais eu. Et donc on a maintenant deux royaumes, un royaume du sud, un royaume du nord. Le royaume du sud, il s'appelle le royaume de Juda. Le royaume du nord, il s'appelle le royaume d'Israël. Ce royaume du nord, il est détruit, enfin, exilé par un roi assyrien qui s'appelle Sanréribe. Sanréribe est aussi un conquérant, mondial. Il va, comme on dit, au Bilbel et de Kolaolam, il a chamboulé tout l'ordre du monde, et en particulier, il a exilé ses 9 tribus et demie, dont on n'a pas de traces, et ont disparu du panorama. Donc, le peuple juif, pour l'instant, il se réduit à 2 tribus et demie. Ces 2 tribus et demie ont néanmoins le Beth Amikdash. Mais 136 ans après l'exil et la distribution, la disparition des deux du royaume du nord, le royaume du sud, pour des raisons politiques en fait, ils sont d'abord essentiellement parce qu'ils sont mal construits, avec une prophétie qui annonce tout ça, qui est la prophétie de Yirmiyahou, le Jérémie, donc le prophète Yirmiyah annonce, et quelqu'un qui arrive là, je sais pas, non, pas Yirmiyah, on va le... Donc ce royaume-là est détruit, enfin exilé lui aussi. Le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash est détruit par un roi babylonien qui s'appelle, tout le monde le connaît, Nabuchodonosor, qui a donné un bel opéra et voilà, un bon chant. Bon, alors, ça dure 70 ans. Et durant ces 70 ans, la Babylonie est battue par les Mèdes. À ce que je crois, avoir entendu, les Mèdes sont ce qu'on appelle aujourd'hui les Kurdes. Et les Kurdes, les Mèdes eux-mêmes sont battus par les Perses. C'est pour ça que Ahasvéros, il est roi de Perse et de Médie. Paras ou Madaï. Donc les Juifs ont changé de maître Ils ont passé par le Galout de Babel, ensuite le Galout de Parasumadai. Et ils n'ont pas changé d'endroit, mais c'est les propres, c'est les maîtres qui ont changé. Changer, ça veut dire changer de système d'idolâtrie, de politique, de regard sur les Bnei Israël, du traitement des Bnei Israël, etc. Ça a changé avec des gens plus ou moins zoroastriens, intolérants, etc. C'est pas drôle, de toute manière. Et ça, tout ça, ça se joue dans les 70 ans de l'entre-deux temples. Parce que, au bout de 70 ans, comme le Navi l'avait annoncé, les Bnei Israël reçoivent la permission de retourner en Eretz Israël. Ils reçoivent la permission de reconstruire le Beth Amikdash. Ça va être la construction de ce qu'on appelle le deuxième Beth Amikdash. Les gens qui rentrent sous la direction de Ezra. Ezra, c'est une superstar. Hazal disent que si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe Rabbeinu, elle aurait été donnée par Ezra. Donc, juste pour avoir une idée de la grandeur du personnage. Mais Ezra, il enseigne la Torah à des Bnei Israël qui ont tout oublié, 70 ans, la durée du communisme, hein. Et bien, en Russie. Et ils ont tout oublié. Il faut leur enseigner la Torah en araméen. Et ensuite, ils doivent choisir une langue, choisir une écriture. Ils choisissent l'écriture qu'on a aujourd'hui, et pas l'écriture que l'ancienne écriture hébraïque. C'est le nombre de personnes qui rentrent en Eretz Israël avec Ezra est totalement dérisoire. Ils sont 42 660. C'est personne, quoi. Tous les restes, tous les autres sont restés en Babel. On va dire Babel, bien que ce soit une domination perse, hein. Alors, bon, il construit le deuxième Beth Amikdash. Ce deuxième Beth Amikdash, il va durer 420 ans. Et à peu près à la moitié de la vie du deuxième Beth Amikdash, il y a ce qu'on appelle le Galout Yavan, l'exil grec. Alors l'exil grec, il est différent des autres exils, comme on l'a déjà vu souvent, mais je le répète pour que ce soit bien clair. C'est un exil qui ne mérite pas le nom d'exil en français, je pense, parce que dans les autres exils, les Bnei Israël ne sont pas chez eux. Ils sont en terre babylonienne, en terre perse et mède. Là, les Bnei Israël sont en terre d'Israël et ils ont le Beth Amikdash. Ça s'appelle un galout. Pourquoi? Parce que les maîtres des Bnei Israël sont les Grecs. Alors, il s'agit des Grecs, enfin, c'est pas vraiment des gens qui viennent de Grèce. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, si vous voulez avoir une idée, ça correspond à la fin de ce qu'on appelle les Anshei Knesset HaGdola, les gens de la Grande Assemblée. C'est une assemblée avant le Sanhédrin, une assemblée qui avait 120 personnes, dans laquelle il y avait des prophètes, et dans laquelle, par exemple, il y avait Mordechai. Mordechai appartient, et le dernier des rescapés de cette assemblée, on en parle dans Pirkei Avot, il s'appelle Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, ou Mishiyarei Knesset HaGdola, il est dans les restes de la Knesset HaGdola, de la Grande Assemblée. Donc ça, pour savoir à peu près où on en est. On est à cette époque-là. À cette époque-là, c'est l'époque d'Alexandre le Grand, et qui conquiert le monde connu, là. Seulement, il meurt très jeune et il meurt sans enfant, et ses généraux se partagent son royaume. En ce qui nous concerne, nous, Bnei Israël, la Judée, plus exactement, la Judée est coincée entre la Syrie et l'Égypte. Coincée parce que en Syrie, il y a des gens qui sont appelés les Séleucides. Et en Égypte, il y a des gens qui sont appelés les Ptolémées. Avec les Ptolémées, les Bnéi Israël se sont plus ou moins entendus. Alors, comme vous pouvez bien le penser, comme la Judée est coincée entre les deux, quand les deux se battent, ben un jour la Judée, c'est, elle est Séleucide, et un jour elle est Ptoléméenne. Dans les Ptoléméens, on connaît, il y en a un, en hébreu, on dit Talmaï, c'est celui qui a fait traduire la Bible en 70 langues. La Septante, oui, la Septante, elle a été ordonnée, elle a été organisée, ordonnée par un des Ptolémées. Ils ont plusieurs avec des numéros différents. Pendant la période de l'exil perse, enfin babylonien, mède, perse, il s'est passé quelque chose de très important qui s'appelle Pourim. Donc Pourim a lieu à ce moment-là, sous un royaume perse, mais d'Achashverosh, on a dit, il était roi de Paras ou Modaï, il est roi de Perse et de Médie. Et voilà, on va pour l'instant pas parler de Pourim. Venir quand même. Et bon, ça continue. Je vous ai dit, on arrive à la moitié de la durée du deuxième Beth Amikdash, à peu près 200 ans après sa construction. Et on est sous la domination des Grecs. Alors, le Rambam, quand il décrit la domination grecque, voilà ce qu'il écrit. C'est son introduction à la halakhot de Hanouka. Alors voilà ce qu'il écrit. Le Bayit Sheni, à l'époque du deuxième temple, Keshe Malchou Yavan, quand les Grecs ont régné, Gazrou Gzerot al Israël, ils ont pris des décrets contre Israël, Boutlou Da'atam, ils ont essayé de faire disparaître ce qu'ils appelaient la religion juive, Inichu, velo inichu otam, la sof ba Torah ou ba mitzvot. Ils ont empêché les Bnei Israël de s'occuper de Torah et de mitzvot. Pashtu yadam ba mamonam. Ils ont fait main basse sur l'argent des Juifs et sur leurs filles. L'argent sur main basse sur les filles, ça voulait dire que les gouverneurs grecs, là, c'est la fameuse histoire, que les gouverneurs grecs, ils se pointaient à tout mariage et ils violaient la kala avant qu'elle entre sous la coupa. Elle prenait sous la coupa, ils la violaient. Voilà. Venichnesu la Echal, et ils sont entrés dans le Beth Amikdash. Ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Ils n'ont pas détruit. Partsubo Pirtsot, ils ont fait des brèches dans la muraille du Beth Amikdash. Betimu à Taharot. Ils ont impurifié toutes les Taharot, tout ce qui était pur. C'est pas que ils se sont pas, on n'a pas continué de faire attention de préserver la pureté des choses. Ils ont recherché toutes les choses qui étaient pures et ils les ont systématiquement impurifiées. C'est-à-dire, la notion de pureté juive n'avait pas droit de cité. Tsar laem l'Israël, meod ipneem. Pour les Israël, c'est devenu largement insupportable. Lachatsum lachats gadol, et ils leur ont imposé une pression énorme. Ad shiricham aleihem eloke avoteinu, jusqu'à ce que le Dieu de nos ancêtres ait eu rachmanout avec eux. Et il les a sauvés de leurs mains, sortis des mains de ces Grecs, les a sauvés. Le Gavru Akoanim, et les enfants de Hashmonaï Akoanim Agdolim, donc n'étaient pas tous Cohen Gadol. Le père était Cohen Gadol. Ve'aragum, et ils ont tué les gens que qui ont résisté. Ve'oshiu Israël miyadam, ils ont sauvé les Bnei Israël des mains de ces Grecs. Ve'midu melech mina kohanim, ils ont installé un roi, pris dans les Kohanim, c'est-à-dire ils ont installé l'un d'entre eux, qui était Cohen. Néanmoins, ils l'ont installé comme roi. Le Chazra, Malchut, les Israël, et donc la royauté d'Israël, donc les Juifs rois sur leur territoire, ça a été réinstauré, et ça a duré, Yeter al Mataim Shana, ça a duré plus de 200 ans. Ad à Khurban Hasheni, jusqu'à la destruction du deuxième Beth-Amikdash. Alors, évidemment, quand Rambam dit que Emidou Melech Mina Kohanim, ils ont installé un roi qui était un Kohen, le Rambam fait allusion à un fait très clair, c'est qu'ils ont fait un vrai issour. C'est un issour, on n'a pas, il y a séparation des pouvoirs, on n'a pas le droit de nommer roi un Cohen. Ils l'ont fait quand même. C'est vrai qu'on ne savait pas très bien qui nommer.
C'est pas ça qui est non,
Alors, tiens. Les Chachamim leur ont dit de ne pas le faire. Il n'était pas nécessaire de le nommer roi. Ils auraient pu expédier les affaires courantes, comme on dit. Quelqu'un va, ou plusieurs, vont se répartir le travail. Mais non, ils ont nommé un roi. Et ce qui, bon, me choque énormément, c'est que le Rambam a l'air de trouver ça très bien. Il a l'air très content. Il n'arrive pas du tout à comprendre ça. C'est un issour, donc. D'ailleurs, bon, ça a très très mal fini.
il mentionne que les Chachamim
Non. Mais il dit quand même, et Midou Melech Mina Kohanim. Ensuite, il dit que chez Gavrou Israël Aloïvehem, Vavadoum, Bechamisha Veskim Bachodesh Kislev Aya. La victoire, elle a eu lieu le 25 Kislev. Nichnesou Laechal. Donc à ce moment-là, ils ont gagné, ils ont pu entrer à leur tour, ils ont pu récupérer et entrer dans le Beth Amikdash. Velo Matsu Shemen Tahor Bamikdash. Dans tout le Mikdash, on n'a pas trouvé d'huile pure. On a trouvé Ela Pach Echad, une petite bouteille. Velo Ayabo Leadlik Ela Yom Echad Bilvat. Dans cette bouteille, il y avait de l'huile qui permettait d'allumer la menorah pendant un jour. La menorah, c'est une menorah à sept branches, d'accord? Qu'on allumait tous les soirs. Le Kohen Gadol allume tous les soirs la menorah. Il remplit les sept branches avec de l'huile. Enfin, donc, il y a des godets dans lesquels il y a de l'huile pure. Et il y avait, au premier Beth Amikdash, il y avait un nes permanent, qui était que la lumière, le nerf central, brûlait au-delà, largement au-delà de la durée de combustion des autres branches. Et on disait que c'était un témoignage de ce qu'il y a dans le plat d'Israël, dans le Beth Amikdash, il y a présence divine. Témoignage de la présence divine, c'est que ce qu'on appelle le Ner Maharavi, la lumière qui était à l'ouest, c'est-à-dire celle qui est au centre de la menorah, brûlait au-delà de la durée normale de combustion. Il y avait un miracle, déjà. Le miracle que ça dure plus longtemps, on connaissait déjà ça. Mais on ne le connaissait pas au deuxième Beth Amikdash. Il était seulement au premier. Umi Peizé. À cause de cela, à cause de quoi? À cause de l'aisse de la combustion pendant 8 jours de cette quantité d'huile. Itkinu Chachamim Sheboto Ador, les Chachamim de cette génération-là, ils ont instauré chez Yush Monatayamim Aelu, chez Trilatan Milel Chamisha Ve'esrim Bekislev, les Chachamim ont instauré que les 8 jours qui commencent le 25 Kislev soient des jours qui commencent la nuit du 25 Kislev, pardon, soient des jours de Simcha, donc une espèce de Yom Tov, quoi, ve Hallel, on va réciter le Hallel complet, ou Madlikin ba'en anerot ba'erev al pitrei abatim. On allume les nerot aux portes des maisons, b'chol laila ve laila mishmonat ha'lelot. Dans toutes les nuits des 8 jours, des 8 nuits de Hanouka, les Harot ou les Galot à Ness, pour montrer, pour dévoiler le Ness. Le Yamim Elou, ces jours-là, Hen Hanikraim, ce sont eux qui sont appelés Hanouka, Vehen Asurin Beespet de Ta'anit, ils ne sont pas du tout interdits de travailler, etc. C'est seulement interdit de faire un hesped, une éloge funèbre, et de jeûner. Et ceci, c'est qui met à Pourim, exactement comme les jours de Pourim. Vadlakot anerot bahen, et l'allumage des nerot, ce jour-là, ces nuits-là, c'est midibrei sofrim, c'est évidemment une mitzvah des Rabbanan, instaurée par les Rabbanan, kekriyatam gila, exactement la même chose, était dit de la lecture de la Megillah. Et toute personne qui est astreinte à la lecture de la Megillah est astreinte à l'allumage des nérodes de Chanukah. Et puis ensuite, le Rambam m'explique que celui qui allume la première nuit, il fait trois brachot, parce qu'il y a Shekhriyanou en plus. Seulement, il fait une bracha dans laquelle il dit Asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu le adlik ner. Le Rambam, il avait la version Shel Hanouka, en un seul mot. Shin Lamed Hanouka. Nous, on dit, il y en a qui disent la Dikner Hanouka ou Shel Hanouka ou Hanouka tout court. Chacun, il y a toutes sortes de minagim pour dire de formules, de Noussar. Et là, le Rambam lui dit Shel Hanouka. Je sais pas comment il faut expliquer ça, mais voilà. C'est comme ça que le Rambam dit. Alors, techniquement, le premier problème qui se pose, c'est comment peut-on dire chez Asher Kidushanu Bemitzvotav et Tzivanu? On dit, c'est Hachem qui nous a sanctifiés, qui nous a ordonnés. C'est pas Hachem qui a ordonné, c'est pas dans la Torah. C'est les Chachamim qui ont inventé. La Kriyat HaMegillah et la lecture, l'allumage des bougies, des lumières de Hanouka, c'est une invention des Chachamim. Une invention qui a eu lieu durant le Galout, évidemment. Durant les deux Galouyot, le Galout des Perses pour la Megillah et le Galout de Yavan pour l'époque de Hanouka. Alors, c'est vrai que d'où est-ce qu'on sait qu'on a une mitzvah d'obéir à ce que nous dit le Chachamim? Pourquoi le Chachamim me dit quelque chose? Pourquoi je suis obligé d'obéir? Obéir parce qu'il y a un passouk qui dit, tu feras tout ce que les Chachamim te diront, même s'ils te disent sur la gauche que c'est la droite, etc., tu feras ce qu'ils te disent. Donc ça veut dire indirectement, les mitzvot des Rabbanan s'appuient sur un passouk, mais elles sont des Rabbanan seulement. Elles ne sont pas de Horaïta. Alors, ça veut dire, en fait, que on peut dire que c'est Hachem qui nous a ordonné par l'entremise des Chachamim. C'est un chidouche, hein, voilà. Voilà. C'est un chidouche, c'est une nouveauté. Mais ça, si vous voulez, on peut le rattacher à la fameuse histoire, vous vous souvenez, il existe en hébreu, il y a un petit mot qui s'appelle et. s'écrit avec la première et la dernière lettre de l'alphabet, comme c'est marqué, Et Hashamaim ve Et Haaretz. Hachem a créé Et Hashamaim ve Et Haaretz. A priori, on disait, quand j'étais plus jeune, je pense que c'est toujours vrai, on disait que le Et, c'est l'introduction au complément d'objet direct. C'est un truc pour la grammaire. Mais les Chachamim, en général, ils se contentent pas de ce genre d'explication. La grammaire, c'est très important. Mais en fait, ils vont essayer de redonner du sens. Et il y a un rave très connu, qui s'est attaché, il a fait un travail, il a donné du sens à tous les mots et de la Torah. Par exemple, il a donné, quand on dit Kabed et Avicha et Imecha, tu honoreras ton père et ta mère, mais avant le Avicha et avant le Imecha, il y a un et. Alors, lui, il a expliqué, c'est resté, que le et en question, il ajoute à ce qui va être, il agrandit la valeur du mot qui est dit. Donc, il est dit, tu donneras du kavod à ton père, et pas seulement à ton père, mais à quelqu'un qui est presque, qui est comme ton père. C'est quoi? C'est ton grand frère. À ta mère, et quelqu'un qui est presque comme ta mère, c'est ta grande sœur. Bon, c'est un problème pour les petits frères qui doivent obéir aux grandes sœurs. Non. Pour les petites sœurs qui doivent obéir à la grande sœur, ça arrive. Mais tout le monde ne connaît pas la dracha, heureusement pour les petits frères et les petites sœurs. Donc lui, il a fait ça. Seulement, à un moment donné, il est arrivé à un passouk qui dit « Et Hachem Elokecha tira ». Alors, il y avait « Et Hachem Elokecha ». Qu'est-ce qu'on va ajouter à Hachem Elokecha? Qu'est-ce que tu oses mettre à la même hauteur qu'Hachem? Alors, il a arrêté. Il a dit « Bon, ben, je m'arrête ». Alors, il a dit « Tout le boulot que tu as fait était inutile ». Il dit « Pas du tout ». Je vais avoir un salaire pour tout le travail que j'ai fait, mais j'aurai aussi un salaire pour avoir su m'arrêter à cet endroit-là. Là, il y a une exception. De toute façon, je confirme la règle, enfin, tout ce que vous voulez. Il y avait une exception. Jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva. Oui, il a osé. Rabbi Akiva a dit, le et, il doit inclure les Tamilé Chachamim. C'est-à-dire, tu dois avoir de la yira, de la crainte, c'est-à-dire une crainte révérentielle à l'égard d'Hachem, et aussi à l'égard des Talmidei Chachamim. Parce que ils sont la personnification de la Torah. Donc on voit que Rabbi Akiva, il a mis les Chachamim quasiment, bien sûr que c'est pas qu'il les met à la même hauteur qu'Hachem, bien entendu, mais du point de vue pour la Yira, il faut la même chose. Donc on peut imaginer là aussi, les Chachamim ont mis leurs mitzvot à la même hauteur que les mitzvot données par Hachem, que de même que tu fais Asher Kishanu Mitzvot Savet Sivanu Alachilat Matzah, ou bien les Shev Basuka, ben tu vas faire la Dik Ner Chanukah, ou bien les Kroet HaMegillah. Bon, c'est un point technique, il y a d'autres réponses qui explique, mais bon, il faut voir là, ici, il y a quelque chose de très important, parce que on a bien 613 mitzvot, on a une tradition, la phrase qui dit que il y a 613 mitzvot. Mais évidemment qu'il y a beaucoup plus de mitzvot que 613 dans la Torah. Par conséquent, il a fallu mettre toutes les mitzvot de la Torah dans 613 cases. Donc il a fallu élaborer des principes, etc. Ce qu'ont fait plusieurs grands maîtres, la Gaon, ou bien le Rambam, ou bien le Bahad, ont fait ou bien le Sire de Coucy, ils ont fait tout un travail comme ça, et ils sont pas tous d'accord, donc ils discutent, celle-là je la mets, ça c'est une mitzvah, l'autre non, ça entre plutôt dans cette catégorie-là, etc. Un travail. Mais en plus des 613 mitzvot, il y a quelques mitzvot Midrabanan. Donc, en particulier, il y a ces deux mitzvot-là qui sont les mitzvot principales des Rabanan. Il y a encore les Hérouv avec, mais bon, on ne parlera pas maintenant des Hérouv. On va parler de ces deux mitzvot-là. Ces deux mitzvot, elles ont en commun d'être des mitzvot qui ont, bien sûr, qui sont Midrabanan, mais par exemple, les Hérouv, Il est Midrabanan, mais parce qu'il a été instauré par Shlomo HaMelech. C'est Shlomo qui a instauré le Nyan du Hérouv. C'est encore, disons, à la période un peu spéciale. C'est encore, mais eux, ils sont vraiment dans le galout. Seulement, si vous regardez d'un peu plus près, vous voyez que la mitzvah de Purim, elle a affaire avec quoi? C'est quoi la mitzvah? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? C'est qu'on a échappé à la fameuse solution finale. La solution finale, c'était de tuer tous les juifs, hommes, femmes, enfants. On s'occupait pas de savoir ce qu'ils pensaient, ce qu'ils pensaient pas. Savait pas si c'est des bons citoyens, des mauvais citoyens, etc. On les tue. Ils sont juifs, on les tue. Et si vous voulez, dans la version moderne, c'est ce qui s'est passé en 39-45. Hanouka, par contre, c'était pas du tout un truc où on allait tuer les juifs. On voulait seulement Le Rama m'a dit, le Vatel d'Atam, on veut annuler complètement leur façon de voir le monde, de servir Hachem, etc. C'est-à-dire, on voulait en faire des Grecs, spirituellement, intellectuellement des Grecs. C'est pour ça qu'on n'a pas, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Ils l'ont transformé en un temple grec. Ils ont mis des photos, enfin pas les photos, ils ont mis des images, ils ont sacrifié toutes sortes d'animaux, pas cachers, etc. Ils ont fait toutes sortes d'abominations qu'on n'a pas le droit de faire évidemment dans le Bétamigdash. Et eux, ils l'ont fait parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils faisaient eux dans leur temple. Donc, le problème des Juifs de l'époque, c'était de ne pas adhérer, de ne pas se laisser séduire par la séduction grecque, qui est une séduction, c'est vrai. Et ça ressemble plus à l'Inquisition. L'Inquisition, si on se convertissait au christianisme, on avait la vie sauve. Donc c'est complètement différent de ce qui se passait en 39-45. Et donc on a deux mitzvot, qui sont des mitzvot dans lesquels on a échappé à une solution finale, disons, à une des deux solutions finales, enfin aux deux solutions finales du type, un type qu'on connaît parce qu'on l'a lu cette semaine. Yaakov Avinu, quand il s'apprête à rencontrer Esav, il demande à Hachem, Mina, sauve-moi, Miyad Achi, Miyad Esav, de la main de mon frère, de la main de Esav. Mais il n'avait qu'un seul frère, Esav. Donc quand il a dit Miyad bien sûr, ça voulait dire d'Esav. Alors pourquoi il dit ensuite Miyad Esav? Alors on explique que quand il a dit Miyad Achi, c'est lorsque Esav se présente comme mon frère. Il veut des bonnes relations avec moi. Et ça, pour moi, c'est l'assimilation. C'est ultra, ultra dangereux. C'est le type de problème que les Grecs ont posé au Bnei Israël. Et puis, il y a des Esav, c'est quand il fait la guerre, quand il veut me tuer. Ça, c'est Achashverosh, Haman, Hitler. Et donc, c'est intéressant qu'on ait les deux grandes mitzvot du Galout. C'est des mitzvot qui ont été instaurées parce qu'on a été sauvés des deux problèmes que Esav, qui représente l'ensemble des nations du monde, nous pose en permanence. Kol dor vador, omnim aleinu lechaloteinu. Ils veulent, toutes les générations, ils veulent nous tuer, spirituellement ou physiquement. Okay. Maintenant, on peut poser une première question. C'est le miracle. de l'huile en question. Personne ne l'a vu. Enfin, presque personne. Bon, ça s'est passé dans le Beth-Amikdash. On ne pouvait pas entrer dans le Beth-Amikdash. Seuls les Kohanim qui étaient de service étaient là. Donc il n'y a qu'eux qui voyaient vraiment ce qui se passait. Ce n'est pas beaucoup de monde. Donc c'est un S. Et si on y réfléchit, c'était un S un peu inutile. Dans la mesure où ce S, il nous a permis de faire la mitzvah. La katanerot, de la menorah, de la meilleure façon. Mais en vérité, ou bien on pouvait dire, étant donné qu'on n'a pas d'huile pure, alors du coup on est ce qu'on appelle anoussim, on est en cas de force majeure, et donc on est dispensé d'allumer. Ou alors on applique une règle, il y a une règle qui dit que quand tout Israël est impur, alors, on peut même apporter les korbanot ou ce qu'on a à faire, on peut l'amener dans un état d'impureté. Donc, on aurait pu amener. Donc, de toute manière, on n'avait pas d'obligation de le faire de l'autre, de cette même manière. Alors, qu'est-ce que le Nes nous a permis de faire? Le Nes nous a permis de faire la mitzvah de la façon parfaite. Bon, si on veut une petite remarque. C'est qu'on peut se demander si, quand on a allumé quand on a brûlé, oui, quand on a allumé pendant les 8 jours du miracle, on a allumé avec une huile miraculeuse, quoi. Est-ce qu'on peut faire une mitzvah avec une huile miraculeuse? Ou est-ce qu'il faut de l'huile d'olive ordinaire? Qui dit que on peut faire une mitzvah avec une huile miraculeuse? Bon, ça c'est juste pour une
Mais
petite.
est-ce que c'est éteint entre temps? Est-ce que c'est éteint tous les jours?
Si, ils ont dû rallumer, oui. Quand on dit que ça a brûlé 8 jours, ça a suffi. Bon. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah, ça ne doit pas brûler 8 jours. Ça les rallumer tous les jours. Hein? C'est ça, c'est ça. Non, mais ça, elle sait. La question, c'est quand on dit que ça a brûlé 8 jours, est-ce que ça a brûlé continuellement 8 jours? Ils ont pu allumer pendant 8 jours.
Lui, il a donc un de l'Ovadia, il a aussi.
Là,
Lui, de la femme de l'Ovadia, c'était bien miraculeux aussi, mais je parle
le
pas.
vinaigre, là, ouais.
Non, lui, la lui,
Ah.
de l'Ovadia.
Ah, celle qui a annoncé.
Oui.
Yeah. Oui, mais là-bas, c'était. Hein?
Y a un ouvrage qui dit que c'était la même parchemin. C'est lui qui a
Ouais, ouais, ouais,
commencé aussi,
ouais, ouais, ouais.
tout à l'heure.
En tout cas, c'est le même Nes, quoi. Ouais.
D'accord.
Ouais, a priori, c'est ça, mais elle c'était égal. Elle avait besoin d'huile pour le vendre. Si on vend aux gens de l'huile miraculeuse, ils vont ça va pas déranger. Mais Hachem qui sait que c'est l'huile miraculeuse, est-ce qu'il pourrait dire, mais dis donc, là, vous n'avez pas produit de l'huile, là? Bon, alors la question c'est pourquoi on a fait un Yom Tov pour quelque chose qui était un miracle que personne n'a vu et qui n'était pas vraiment nécessaire. C'est vrai que c'était un chesed d'Hachem de nous permettre de faire la mitzvah de façon parfaite. Mais pourquoi faire quelque chose? Pourquoi en faire tout un plat? Et puis, il y avait un autre Ness, le grand Ness de la guerre. On voit bien dans Rambam qu'il n'en parle pas du tout. Il dit quand ils ont gagné, alors, et puis après il dit Mipnezeh, à cause de ça, à cause du Nes, du Parchemen, Itkinu Chachamim Sheboto Ador. Les Chachamim de cette génération ont instauré les 8 jours de Hanouka. Uniquement à cause du Parchemen. Et donc, il s'agit de comprendre un peu quel était le problème, pour quelle raison on a publié ce Ness. En plus, c'est une mitzvah un peu particulière, parce que c'est une mitzvah qui est faite pour les autres, en quelque sorte. On allume devant sa maison. Donc, les gens qui sont dans la maison, ils voient pas. Ils ont peut-être vu s'ils sont entrés après qu'on a allumé, mais s'ils sont entrés avant, ils voient rien. Pas du tout. Le maître de maison, il descend, il allume. Il descend, il sort, devant la porte, il allume devant sa porte pour les gens qui voient, pour les autres. Parce que c'est aussi pour l'égoïsme, le cas échéant. Ça, c'est une question ouverte. Alors, pour y voir un peu plus clair, on va avancer un petit peu. Le Rambam dit, on allume. Donc, on allume toutes les nuits. Combien de Nérotes on allume? Alors, en vérité, on allume une lumière. Une lumière par maison. Devant chaque maison, il y a une lumière qui brûle. C'est la mitzvah. Il faut savoir que si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez pas allumer, c'est le septième jour, vous avez sept, vous ne pouvez pas allumer sept parce que l'hôtel ne permet pas ou parce que, bon, bref, vous ne pouvez pas, mais vous pouvez en allumez une, parce que vous avez fait la mitzvah. Il y a des gens qui pensent que si on ne peut pas allumer le nombre de jours, on n'allume pas. Non, allume une. Tu as fait complètement la mitzvah. La mitzvah est parfaitement faite en allumant tous les soirs une bougie. Allume une le premier soir, une le deuxième, une le troisième, une le huitième. Ça, c'est la mitzvah. Maintenant, il y a quelque chose qui, dans la Torah, s'appelle Hidur mitzvah. C'est-à-dire, on peut embellir une mitzvah. Alors, on peut l'embellissement de la mitzvah. Ça peut être de faire quelque chose qu'on doit faire d'une manière, on va le faire plus beau. Il faut allumer des Nérodes de Shabbat. Les Nérodes de Shabbat, tu peux prendre, je sais pas, on peut couper une pomme de terre en deux, d'accord, et allumer, et mettre de l'huile dans la pomme de terre, là, et allumer, mettre une mèche et allumer. Très bien, allume deux Nérodes. Acheter deux bougies, on les pose sur la table. Et on peut embellir, par exemple, on considérait que c'est plus beau si on allume sur un bougeoir argenté ou en argent, ou un bougeoir doré ou en or, ou bien un bougeoir décoré, hein, ou bien faire un talit, on va lui faire une couronne, etc., en métal, en tout ce que vous voulez, peu importe. Bon. On peut acheter un étrog cachère, et on peut acheter un étrog spécialement beau. Encore que là, il faille encore se mettre d'accord sur qu'est-ce qui s'appelle un bel étrog. D'accord? Bon, ça, c'est des problèmes d'esthétique. En plus, il y a même des traditions. Chez les Hassidim, on considère qu'il faut bien sûr qu'il ait une ceinture, parce que si en ceinture, c'est pas un vrai chassid, donc c'est pas un étrog chassidique. Et puis il y a d'autres qui disent des fois qu'ils sont très bosselés, donc il faut faire comme si, pas comme si, justement. Donc, chacun a sa notion de qu'est-ce que c'est qu'un bel étrog. Mais bon, il y a des étrogims que tu peux acheter pour 10 euros, tu peux aussi acheter un étrog à 500 euros, ça existe aussi. Cette démarche-là s'appelle Hidur mitzvah. On peut embellir la mitzvah. Et on peut embellir toutes les mitzvot, sauf les mitzvot qui concernent la construction du Mishkan ou du Beth Amikdash. Là-bas, on ne peut pas embellir, c'est-à-dire, supposez que vous ayez un très beau bijou, un très beau diamant, et vous décidez, qu'est-ce que je peux faire avec ce diamant? Je vais l'enchâsser dans le couvercle du Aaron HaKodesh, l'arche de l'Alliance, dans le Beth Amikdash. Je vais enchâsser mon magnifique diamant. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ben, si vous faites ça, c'est à vous la Zara. Tout ce qui concerne le Beth Amikdash, c'est ou bien tu fais exactement ce que je t'ai prescrit, ou c'est totalement interdit, ça veut dire. Parce que dans la construction de, dans tout le système du Beth Amikdash, c'est un système qui est très, très dangereux. On joue un peu avec le feu. On est très, très proche de l'idolâtrie, enfin, des pratiques idolâtres. Les idolâtres, l'Avdil, ils amènent aussi des corbanotes, aussi des sacrifices. Ils ont aussi des autels. Ils brûlent de l'encens. Il y a beaucoup, plein de choses qui se retrouvent. Et si on ne fait pas exactement ce que la Torah a dit, on est dans l'interdit. Mais partout ailleurs, dans toutes les autres, pour toutes les autres mitzvot, on peut embellir. Mais la Torah, en général, elle ne nous dit pas comment embellir. On prescrit pas l'embellissement, c'est ça. Il y a une discussion sur le montant qu'on peut consacrer, le pourcentage qu'on peut consacrer à l'embellissement par rapport à la valeur de l'objet. Une mitzvah qui coûte tant, tu peux ajouter, disons, 30% pour l'embellissement, mais tu peux pas doubler le prix ou etc. S'il y a un prix, il y a des choses, il n'y a pas de prix. C'est quoi le prix d'un étron? Ici, dans la mitzvah de Hanouka, de la Katneron de Hanouka, le Rambam nous donne le premier hidour mitzvah. Comment est-ce qu'on peut être mehader? Comment est-ce qu'on peut embellir la mitzvah? Alors, le premier hidour, ça consiste à faire la chose suivante. Le premier soir, tu allumes en fonction du nombre de personnes qui habitent dans la maison. La mitzvah de Hadlakat HaNerot, a dit le Rambam, ça concerne les hommes et les femmes. Bon, alors après, il y a eu toutes sortes de minhagim. Est-ce que les femmes allument? Est-ce qu'elles n'allument pas? Est-ce qu'elles n'allument pas? Alors, est-ce que les jeunes filles allument? Puisque, en fait, on a pris l'habitude que même quand on allume en fonction du nombre de personnes dans la maison, la femme, elle n'allume pas séparément de son mari. C'est une des situations où le deux devient un, quoi. C'est-à-dire, le mari et la femme allument une seule lumière pour eux. Mais un frère et une sœur, ils n'allument pas une seule lumière. Ils allument une lumière pour chacun. Dans le cas où les sœurs, les filles allument, l'endroit où les filles n'allument pas. C'est le but des minhagim. C'est des minhagim, puisque la mitzvah, c'est une lumière par maison. Alors évidemment qu'une jeune fille ou une jeune femme qui, ou pas jeune d'ailleurs, peu importe, une femme qui habite toute seule dans une maison, elle va allumer. Parce que dans la maison, on doit allumer. Ça, c'est le hidour mitzvah. Et le deuxième jour, tu allumes. Supposons il y a une famille avec quatre enfants et un papa et une maman, donc ils allument cinq. Le premier soir, ils allument cinq bougies. Le deuxième soir, cinq bougies. Le quatrième soir, cinq bougies. Et le huitième soir, cinq bougies. Ça, c'est le premier hidour mitzvah. Et le Rambam dit, il y a un deuxième hidour mitzvah, un hidour de hidour, super hidour. Ça consiste à allumer en fonction du nombre de jours de Hanouka, c'est-à-dire comme nous faisons, une lumière le premier, une autre, deux lumières le deuxième, trois lumières le troisième, huit lumières le huitième. Et il y a deux versions de cela. Il y a ceux qui font un, deux, trois, et il y a ceux qui font sept, huit, neuf. Beth Shammai et Beth Hillel, Beth Shammai disent, on allume en fonction du nombre de jours restants à courir jusqu'à huit. Et là, ils disent, non, on allume en fonction du nombre de jours passés. Aujourd'hui, on allume deux parce que on a déjà allumé une hier. Aujourd'hui, on allume deux. Alors maintenant, si on veut faire les deux Hidourim, il y en a deux, alors c'est très embêtant. Parce que si vous allumez six, on ne sait pas s'il y a deux personnes dans la maison et qu'on est au quatrième jour, ou s'il y a quatre personnes dans la maison au deuxième jour. Comment vous allez faire? Et si vous séparez, vous dites, je vais mettre deux ici et quatre là, on ne sait toujours pas si c'est deux personnes ou quatre personnes. Donc, c'est embêtant. De cette manière-là, si c'est vraiment, si on allume justement cette façon-là, c'est compliqué. Faire les deux choses. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Rambam, il dit, le premier hidour, c'est le hidour des personnes, le nombre de personnes. Le deuxième hidour, c'est le nombre de jours. Oui. Mais Tosfot, il dit le contraire. Il dit il prend les mêmes hidourim, mais il les met dans l'autre ordre. Pour lui, le premier hidour, c'est 1, 2, 3, ou bien 7, 8, 9, 7, 6, 5. Et le deuxième hidour, c'est le nombre de personnes. Et je crois que ce qui est encore plus drôle, c'est que les Ashkenazim, ils font comme le Rambam, qui est d'habitude l'autorité pour les Sfardim, et les Sfardim, ils font comme le Tosfot, qui est l'autorité pour les Ashkenazim. Bon, ceci étant, on s'en un peu plus près. Regardons d'abord le premier hidour d'après le Rambam. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça veut dire d'allumer en fonction du nombre de personnes dans la maison? Le Nes, il s'est passé au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y a de l'huile qui a brûlé pour 8 jours, alors que normalement, il y avait de quoi brûler un jour. Qu'est-ce que ça a à voir avec le nombre de personnes dans la maison? C'est une question à laquelle vous pouvez répondre si vous voulez. Celles qui veulent ouvrir leur micro, vous pouvez ouvrir votre micro. Si vous avez quelque chose à dire.
Est-ce que le nombre de personnes, elle n'est pas comme le nombre,
Elle est comme?
c'est la personne, elle n'est pas attribuée au nombre.
Pourquoi le nombre de personnes aurait à voir avec les Nérodes qu'on allume une, d'après ça, on allume un air par
Chaque mois, on dit que vous pouvez avoir
D'accord?
un
Ouais.
peu
Et en plus, qu'est-ce que ça a à voir avec la mitzvah de la Katniro de Hanouka? Je veux bien que tu dises que chacun est représenté par une bougie, mais qu'est-ce que ça a à voir?
de
Non, la mitzvah, c'est de, on a, on publie, on publie le Nes en allumant. Donc la mitzvah, c'est de publier qu'il y a eu un S que personne n'a vu. D'accord? Mais on publie. Il faut, si on veut essayer d'expliquer de telle sorte que ça ait quelque chose à voir, faut dire que de la même manière que faire brûler de l'huile de telle sorte qu'on ait de l'huile pure. Bon, c'est d'ailleurs, l'accent est sur la façon spécifiquement juive de faire les choses. On aurait pu les faire de la Touma, c'est-à-dire de façon pas. Si on avait allumé le Touma, on aurait bien allumé la menorah dans le Betamigdash, mais on aurait allumé comme un goy allumerait lui aussi un candélabre quelconque, sans tenir compte de la notion de pureté. Donc, si on veut chercher quelque chose, il faut mettre, il faut dire que de parler du nombre de personnes dans la maison, c'est une façon juive de voir qui est une façon opposée à la façon grecque de voir la maison. À Sparte, qu'on donnait naissance à un enfant mal formé ou n'est pas vraiment beau, eh bien on le jetait dans un puits, quoi. On le tuait. On n'avait pas le droit de vivre si on n'était pas capable de devenir un bon soldat. Ça, c'est la version grecque. La notion d'enfant dans une maison, etc., elle ne joue pas de rôle en Grèce. Il n'y a pas d'importance. Il faut bien assurer la pérennité de l'espèce, mais c'est tout, quoi. On s'en fiche. Voilà, sauf pour en faire des soldats à Sparte. Nous, les enfants, c'est fondamental. Dans la maison, il n'y a pas que des enfants, il peut y avoir un neveu, etc. Mais avant, si on regarde ce problème-là, allons le regarder à la source, on va regarder à la source de la notion de maison. C'est chez Abraham qu'il faut aller regarder. Qu'est-ce que la Torah nous dit d'Abraham? Hachem dit, je choisis Abraham parce que lui, il va ordonner à sa maison les lois de Chesed, etc., mes lois. Il va les transmettre dans sa maison. Sa maison, c'est pas aux pierres de sa maison, au bois de sa maison, c'est aux personnes de sa maison. Il va assurer la transmission. Les enfants, c'est la notion de transmission. Par conséquent, c'est là la grande différence qu'il y a entre la Grèce et la Torah. La Torah, enfin, la Chochma grecque et la Chochma de la Torah. La Chochma de la Torah, elle met l'accent sur la notion de transmission. Et c'est ça qu'on publie en tenant compte du nombre de personnes, en mettant en évidence le nombre de personnes. Qu'est-ce qui est important? Il est important d'annoncer le Nes, parce que ce Nes, il dit la spécificité juive, c'est-à-dire on avait besoin d'huile pure, on voulait de l'huile pure, et la deuxième chose, c'est cette notion de pureté, de chukim, etc. Tout ça, c'est quelque chose de très important et maintenant à l'échelle de la maison, c'est donner de l'importance à toutes les personnes de la maison et pas simplement au chef de la maison, au propriétaire ou au maître de maison. Donc, il y a cet aspect-là. À part ça, on peut penser la chose de la manière suivante. Je vous ai dit, Hanouka, le Rambam dit, ces jours-là, ce sont ces jours-là qu'on appelle Hanouka. Ces 8 jours. Pourquoi on les appelle Hanouka? Alors, on est dans le deuxième Beth Amikdash, et cette Hanouka, c'est une forme d'inauguration du Beth Amikdash. Vous me direz, on l'a déjà inauguré il y a 200 ans. Oui. Mais il a été complètement impurifié, et donc il faut tout reconstruire, tout refaire, et il faut ré-inaugurer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une inauguration? Le mot Chanukah, il est de la même racine que Chinuch. Chinuch, c'est l'éducation. C'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est, comme dit Shlomo HaMelech, il faut, pour éduquer un enfant, il faut essayer de savoir quel est son derech à lui. Chacun a un derech à lui. Chacun a une façon d'être C'est-à-dire des choses qui lui sont faciles, des choses qui lui sont difficiles, des penchants comme ci, des penchants comme ça, etc. Ça, c'est le derrière de la personne. Et il faut éduquer quelqu'un en tenant compte de son derrière. Et donc, il faut, l'éducation, elle consiste à mettre un enfant sur les rails qui correspondent à son derrière. C'est-à-dire, dans son derrière, il peut faire le bien comme on peut faire le mal. Une façon de parler du derrière de chacun, c'est de parler de ce qu'on appelle le mazal, quelqu'un, le destin, quelqu'un, la planète sous laquelle il est, en quelque sorte, ou la configuration de planète sous laquelle il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a, pour donner un exemple, il y a quelque chose qui s'appelle Mazal Maadim. Il y a un Mazal rouge, qui tend vers le rouge. Alors, le Gaon de Vilna explique que si quelqu'un est né sous un Mazal Maadim, alors il a devant lui tout l'éventail, tout lui est ouvert, mais toujours à l'intérieur de ce Mazal-là. Le rouge, ça a à voir avec le sang. Alors le sang, on peut le faire couler dans la Mila, on peut le faire couler dans la Shrita, ou on peut le faire couler dans le meurtre. Donc tout l'éventail est là. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui est sous un Mazal Maadim, tu vas faire quelque chose qui est sans commune mesure du tout avec le rouge. Ça, c'est pas possible. C'est comme si, à la limite, si vous voulez, c'est comme si on disait à quelqu'un qui naît dans ce siècle ici, on lui dit, ah, il faut que tu te conduises comme si tu étais né au 15e. Ça n'a pas de sens. Il faut tenir compte, et puis il faut que tu te conduises comme si tu étais né, je sais pas, en Afghanistan, ou c'est pas possible. Ça veut dire, ça fait partie des données. On pourrait dire que le mazal, c'est, entre autres, c'est tout ça. Ça veut dire, c'est plus que ça probablement, mais en première approximation, on pourrait dire c'est ça. C'est, je vis à un moment bien précis, en un lieu bien précis, avec des parents qui ont eu cette trajectoire-là et pas une autre trajectoire. Et donc, je peux pas faire abstraction de tout ça. Je peux pas me développer sans faire abstraction, sans tenir compte de cela. Mais comment je vais en tenir compte? Qu'est-ce que fait un enfant qui naît dans une famille de mafieux? Alors, il peut devenir mafieux. Le penchant naturel d'un enfant qui naît dans une telle famille, il va devenir mafieux, a priori. Ou alors, il va se révolter et il va être dans la police anti-mafieux, ou il va être dans je sais pas, les bienfaiteurs de l'humanité. Donc, il y a un certain déterminisme, si on peut parler comme ça, mais ce n'est pas un déterminisme absolu, c'est une tendance. D'ailleurs, le Yetzer, quand on parle de Yetzer Hatov, Yetzer Hara, c'est des tendances, c'est des penchants. Ça n'est pas une détermination, mais il y a un penchant, donc il va falloir faire avec. Et l'éducation d'un enfant, c'est de deviner, de trouver quels sont ses penchants. Et dans les penchants majeurs, c'est-à-dire le fait qu'il ait tendance à aller dans que ce soit rouge ou bleu ou ce que vous voulez, bien dans cette couleur, si on peut parler au sens large, il va trouver, le mettre sur un bon chemin de telle sorte qu'il choisisse le bon chemin à l'intérieur de ce penchant-là. C'est ça le chidouch. Abraham, il va transmettre dans sa famille, et s'il transmet bien, c'est qu'il a tenu compte de tout ce qu'était chacun, de la qualité de chacun. Et des défauts de chacun, non. Et donc, Hanouka, ça a à voir avec cette notion de chinour, ça a à voir avec cette notion de transmission, donc ça a à voir avec l'importance qui est donnée à chaque personne dans la maison. C'est pour ça que le premier hidour, tout commence uniquement Quand tu veux, si tu veux être mefarsem, si tu veux publier, alors il va falloir faire, faut s'occuper de ta maison à l'intérieur aussi. S'occuper de l'intérieur de la maison, c'est faire participer tout le monde à la mitzvah. Bien que ce soit une mitzvah dont on puisse s'acquitter de façon collective, c'est-à-dire un pour tout le monde, il faut montrer que, en vérité, chacun a son chemin et chacun va devoir allumer à sa manière. Pour l'instant, ils allument tous de la même manière, mais chacun va allumer avec une autre façon. Peut-être, d'ailleurs, chacun pourrait allumer avec une. Alors, on a inventé un mot qui s'appelle Hanoukia pour régler le problème, parce qu'en vérité, personne ne dit qu'il faut que ce soit que les Nérodes doivent être dans un candélabre, dans un chandelier. On doit mettre, il faut avoir dit des Nérodes, l'un à côté des autres. Alors, du coup, la Gemara, elle discute, est-ce qu'on a le droit de les mettre comme ça en vague, les huit comme une vague, ou bien est-ce qu'il faut absolument que ce soit droit. C'est pas un qui monte, un qui descend, etc. Les Nérodes doivent être droites. Alors, pour que ça soit droit, le plus simple, c'est de les mettre dans un chandelier, en fait. Alors, du coup, on a développé un chandelier à 8 branches, puisqu'il faut 8 jours. Et puis après, on a aussi développé un truc pour avoir un chan. Comme il faut bien un chamash, il faut bien allumer les nérotes avec quelque chose. On pourrait les allumer avec une allumette, puis ensuite allumer n'importe quelle bougie à côté. Puisque normalement, comme on le dit dans le texte qu'on dit quand on allume, on dit qu'un nérot halal ou ces nérotes-là, elles ne sont pas fonctionnelles. Les nérotes de Hanouka, elles n'ont rien à voir avec les nérotes de Shabbat. Les nérotes de Shabbat, elles sont fonctionnelles. Elles sont là pour qu'on ne se cogne pas les uns dans les autres. Les nérotes de Hanouka, on n'a pas le droit de les utiliser. On n'a pas le droit de s'éclairer à la lumière de ces nérotes. Donc, pour ne pas s'éclairer à la lumière de ces nérotes, on allume ce qu'on appelle un shamash. On allume une bougie, ou bien on allume l'électricité, ou on allume de telle sorte que quand j'entre dans la pièce, si aujourd'hui qu'on allume dans l'intérieur, ou bien à l'extérieur, que ce soit pas ça qui illumine, il faut allumer si on est à l'extérieur, il faut allumer encore une bougie à côté, ou une autre lumière à côté, de telle sorte qu'on soit éclairé par cette autre lumière, et pas par les bougies ou les lumières de Hanouka. C'est pour ça qu'il faut alors ou bien on l'a associé, on s'est arrangé pour qu'il soit une partie du chandelier aussi. Le shamash, il a une place, lui un peu décalé, devant, derrière, à côté, etc. Il faut effectivement pas le mettre en ligne avec les nérodes de Hanouka. Si tu le mets en ligne, alors on va être coincé au lieu de deux lumières le deuxième soir, on en aura trois. Donc, on a inventé ça, on a même inventé un nom pour ce chandelier en question, on l'appelle Hanoukia. C'est une invention, ça n'existe pas ce mot. Donc, on a essayé d'expliquer.
Ça veut dire quoi que c'est bien
On a inventé un nom. On a
dans
trouvé un nom qui n'existait pas.
ce
Hein?
qui
C'est
n'existait
pas,
pas.
c'est ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, ni dans la Halakha, sauf la Halakha moderne qui prend en compte qu'on appelle ça Hanoukia. Il y a des modernes qui vont parler de la Hanoukia parce que c'est un raccourci au lieu de dire les Nérotes, on va dire la Hanoukia, je veux dire. Alors, c'est une menorah, mais toute menorah, tout candélabre, tout chandelier est une menorah. Dans menorah, l'accent, il est pas sur Hanouka, il est sur le fait que ça éclaire, quoi. C'est tout. Mais bon, il n'y a rien de mal à utiliser le mot de Hanoukia, parce que pourquoi pas, je veux dire, mais bon. Aujourd'hui, tout est politique, donc tu utilises Hanoukia. Alors, ça fait référence trop fortement à Hanouka, peut-être c'est trop religieux, pas assez religieux, ou trop de cette tendance ou de cette autre tendance. Ça n'a aucune importance, en fait, comme toujours. A priori, ça n'a pas d'importance. Mais il y a des milieux où on l'utilise, des milieux où on l'utilise pas. La vérité, c'est quelque chose qui est... Je ne me souviens pas que, non, très longtemps, dans ma jeunesse, on n'utilisait pas ce mot-là. Je ne crois pas que... Je connaissais pas, dans ma jeunesse, le mot Hanoukia. Connaissais pas ça? Je crois pas que je connaissais... Je crois pas que dans ma jeunesse, on utilisait Hanoukia. C'était pas un mot... Oui, c'est les Israéliens qui ont dû inventer... Bon, ils inventent toujours plein de mots, donc ils ont inventé celui-là aussi, pourquoi pas? Donc ça, c'est le, me semble-t-il, un peu le lien entre ce premier Hidour, Hidour de la famille, la valeur de la famille, ce que c'est que le Hinour, etc. Donc il est bien à sa place dans la mitzvah d'Adlakat à Nerot. Deuxième hidour, c'est de marquer la construction, en quelque sorte, de ces 8 jours de Hanouka. Marquer combien de jours il reste, ou bien combien de jours sont déjà passés. Il s'agit de prendre conscience, si on peut parler comme ça, de ce que, de la durée de la durée de miracle en question. Il y a eu un miracle. Et si on dit ça a duré 8 jours, mais que bon, ben on le sent pas passer quoi quelque part. Alors, on dirait quand on allume un air tous les enfin une bougie, une lumière tous les soirs, on le sent bien qu'on allume tous les soirs. Bon, mais on n'entend pas vraiment que voilà, on ne sait pas vraiment où on en est dans les 8 jours. C'est important, semble-t-il, pour prendre conscience que c'était vraiment 8 jours. De marquer les jours qui passent, d'une manière ou d'une autre. Alors, selon qu'on va s'attacher aux jours qui ont passé ou aux jours à venir, c'est donc deux façons différentes, Beit Shammai et Beit Hillel. Alors, pourquoi est-ce que Beit Shammai ont décidé de faire 7, 6, 5, etc., en décroissant, parce qu'ils ont pris modèle sur les taureaux qu'on amène, le nombre de taureaux qu'on amène à Soukhot. Vous savez probablement, à Soukhot, on amène toutes sortes de korbanot, et en particulier, on amène des taureaux, et on va amener en tout, durant Soukhot, 70 taureaux. 70 taureaux, 70, ça fait référence tout de suite au 70 peuples, Motaolam, on va apporter, nous, des korbanot pour eux. Soukhot, c'est la fin, c'est le Hag, et ça correspond à la fin de l'histoire. Donc, à la fin de l'histoire, les Motaolam vont reconnaître Hachem, etc. Nous, on apporte, en attendant, on apporte des korbanot pour eux, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés, et on apporte ces korbanot, il y a 8 jours enfin 7 jours de Soukhot, et on apporte un nombre décroissant de taureaux. On apporte 14, 13, 12, etc. taureaux, que le temps passe. Donc on montre effectivement, comme si, puisqu'on va vers ce qui va représenter l'apothéose de Soukhot, Shmini Atzeret, tout ça, c'est référence à la fin des temps. Donc, quand on va vers la fin des temps, il y a moins de korbanot à apporter. Plus on s'approche, moins il reste de korbanot à apporter. Moins de, voilà, c'est le problème. On a déjà apporté, donc c'est une idée de l'approche de la fin, quoi. Alors, ils ont pris ce modèle-là. Non, 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 14 en tout, et en tout, on ajoutera tous les jours où on a emporté, dont le 14, 13, 12, etc. Un de moins chaque jour de Soukhot. Et le total fera 70. Enfin, vous pouvez vérifier que vous avez compté les bons, parce qu'en tout, ça va faire 70. En plus des corbanotes qu'on apporte pour nous et pour la fête, etc. Donc, comptez, considérez que il faut mettre l'accent sur le fait qu'on arrive au bout. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans Hanouka? Pourquoi compter? Il y a de moins de jours encore. Mais l'idée, c'est quoi? Quand on compte les taureaux, etc., c'est parce qu'on s'approche de la fin des temps. Donc, on monte en réalité. Donc, on a moins besoin de taureaux. Mais ici, quand on s'approche de la fin de Hanouka, en quoi est-ce qu'on doit dire qu'on monte? C'est-à-dire, pourquoi il faut moins de lumière, en quelque sorte. On a moins besoin d'allumer de la lumière. Plus on s'approche de la grande lumière, c'est ça que ça voudrait dire. Parce qu'à ce moment-là, quand on aura fini les 8 jours, alors on a de l'huile standard. On aura l'huile qu'on aura fabriquée. Donc ici, c'est comme si on disait, ben, il y a une période anormale dans laquelle on doit vivre sur le miracle, et peut-être que il faut considérer que le mieux, ce serait quand même de retrouver le fait où nous faisons les choses, si vous voulez. C'est important de les faire par nous-mêmes. D'accord? Hachem les fait pour nous. Il nous fabrique à nous l'huile. Mais le mieux, c'est quand même de le faire nous-mêmes, parce que l'important, c'est les corbanotes que nous faisons. Et donc, on a besoin de moins de lumière, parce qu'on s'approche de l'essentiel. L'essentiel étant, on n'a plus grand-chose à faire, c'est presque arrivé. On va presque faire nous-mêmes maintenant ce qui doit être fait de façon normale. On va presser nous-mêmes l'huile d'olive et on va produire nous-mêmes l'huile de la menorah. Donc c'est ça, je crois, l'idée de Beit Shammai, l'idée qui est pas la nôtre, quoi. Parce que nous on fait pas comme ça. On compte les jours qui ont passé, ça veut dire on remercie Hachem pour tous les jours qui ont passé. Si on est dans le remerciement, et eux, ils sont plutôt dans peut-être le, il faut vraiment qu'on arrive au temps où on fait vraiment le travail nous-mêmes. Parce que,
C'est ça qui amène la vraie lumière.
oui, le mieux, c'est l'arrivée à la vraie lumière, c'est la lumière qu'on allume nous. Hachem, il a dit, c'est vous qui devez allumer la lumière. Et même dans les Midrashim, c'est même marqué que Hachem a demandé qu'on allume nous la lumière pour nous mettre à l'aise, parce que nous vivons sans arrêt avec la lumière qu'Hachem nous a donnée. Il dit, je veux que vous m'éclairiez aussi. Hachem n'a pas besoin du tout de lumière, mais quand on allume la menorah dans le Beit HaMikdash ou dans le Mishkan, c'est pour que nous éclairions, que Vayakhol Hachem, si on peut parler comme ça, Hachem dit comme ça, vous avez, c'est donnant-donnant. Moi, je vous donne et vous donne. Je vous donne la lumière, vous me donnez aussi la lumière. C'est en quelque sorte pour réduire notre dépendance, pour faire de nous si vous voulez, des associés à Hachem. Pour être associé à Hachem, il faut être de plein pied avec lui. Parce que si on est complètement tout le temps dépendant, on n'est pas vraiment associé. Donc, c'est ça qu'on pourrait dire la façon Beit Shammaïque et Beit Hillelique d'allumer les Nérodes de Hanouka. Voilà, on va s'arrêter là.